C'est ce qu'on nous dit, tester, tester. Donc on le fait aussi hein, pour ça. Hein. Si on nous avait dit ça sert à rien, on l'aurait pas fait. Hein.
Les files d'attente s'allongent et le délai aussi dans les laboratoires. Les médecins redoutent qu'on le retrace trop tard le parcours de nombreux malades et appellent à changer de braquet. Après l'abdication, l'exil pour l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos. Sous le coup d'une enquête pour corruption, il quitte son pays. Nous sommes à Madrid dans ce journal.
C'est encore une honte. C'est que c'est quelqu'un qui a fraudé, qui a eu des affaires, qui a eu des copines. Il devrait payer, il devrait être devant la justice.
À suivre également, que se passe-t-il dans les prisons françaises? Moins de détenus, mais une flambée de violence envers les surveillants. Flambée tout court, qui se poursuit en Californie. On sera au cœur de la lutte des pompiers contre l'Apple Fire. Et puis, quelle est la plus belle plage de France? On a peut-être la réponse.
Avec les couleurs de l'eau qui changent régulièrement selon le soleil et des souvenirs qui vont être gravés pendant quelques années avec les enfants. Quoi.
Mais où est ce bijou? On lève le suspense à la fin de ce journal. Votre invité à 7h40, Sébastien.
On paye de plus en plus sans contact et les distributeurs de billets disparaissent. Se dirige-t-on vers la fin du cash? Le directeur général adjoint de BNP Paribas, Thierry Laborde, vient nous répondre à 7h40. Avant cela, l'édito éco, le gouvernement qui veut taxer les complémentaires santé. Et votre rendez-vous santé menace de deuxième vague ou pas? Qui faut-il croire? Le docteur Jimmy Mohamed va tenter de nous aider à y voir plus clair. Bon réveil, il est 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était amorcé en fin de semaine dernière. La tendance se confirme ce matin. Le nombre de patients en réanimation pour coronavirus repart à la hausse. 13 personnes de plus depuis vendredi. Le ministère de la Santé compte aussi 5 nouveaux foyers de contamination. Et outre le masque obligatoire désormais dans certaines villes, la stratégie du gouvernement, vous le savez, repose sur les tests. 500 000 par semaine, disent les autorités.
Sauf que le dispositif sature depuis des semaines. Les files d'attente continuent de s'allonger devant les laboratoires, comme celui où s'est rendu à Paris Pierre Herbulot.
Au laboratoire, toutes les raisons sont bonnes pour être dépisté.
Je pars en vacances dimanche prochain. D'accord. Et pour être sûr, j'ai préféré faire le test avant de partir.
Je voudrais savoir si je suis potentiellement porteuse ou pas.
Il y a peut-être une hiérarchie à faire malgré tout.
J'ai mal à la tête et j'ai eu le nez qui coule.
Martin est bourré de symptômes, mais avec le monde, il va devoir attendre 4 jours pour savoir s'il est effectivement contaminé.
Là, je vous avoue que je trouve ça un peu trop. Je pense qu'il y a une forme de psychose hein, vis-à-vis de cette pandémie. Mais bon, je comprends que dans notre société où on n'entend plus justement parler de la maladie et de la mort, tout le monde réagisse un peu de manière irrationnelle.
Si les délais s'allongent, c'est parce que les machines qui lisent les résultats tournent à plein régime et tombent en panne. Karine, qui veut se rassurer avant d'aller voir ses parents, accepte une petite part de responsabilité.
J'ai conscience, mais on nous dit aussi de protéger nos aînés. Donc là, c'est vraiment... La seule solution qu'on a eue pour se rassurer un petit peu. C'est ce qu'on nous dit, tester, tester. Donc on le fait aussi hein, pour ça. Hein. Si on nous avait dit ça sert à rien, on l'aurait pas fait. Hein.
Les vacances des biologistes n'arrangent rien. Le laboratoire d'à côté affiche sur sa devanture fermeture annuelle du 1er au 30 août.
Alors, quelle réponse face à ce constat qui commence déjà à durer? Le professeur Gilles Pialou est le chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Il demande au gouvernement, écoutez, de prendre le taureau par les cornes.
Il faut un peu être innovant sur les tests de dépistage et peut-être que c'est pas la solution d'augmentation par les laboratoires de ville qui peuvent être aussi à saturation rapidement et que peut-être il faut trouver d'autres systèmes, faire des hangars où vous rentrez par un endroit, vous sortez par l'autre, où on peut faire des politiques massives de dépistage. Quand vous voyez ce qui se fait au Danemark, ils dépistent 250 personnes par millier d'habitants. C'est hallucinant, mais nous on n'est pas du tout dans cet ordre-là. Et n'oubliez pas qu'on est dans une période de transhumance aussi. Il n'y a pas que les gens qui reviennent de l'étranger, il y a les gens qui bougent. On va à dépister tous ces gens-là. Et pour ça, il faut effectivement des moyens, des bras, de l'organisation. Et pour l'instant, on ne le comptait pas.
Le professeur Gilles Pialou, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, au micro européen de Victor Dolande.
On parlait du port du masque et on se souvient de la mort de ce chauffeur de bus frappé à Bayonne parce qu'il avait demandé à des passagers sans masque de descendre du véhicule. Eh bien, une nouvelle agression de ce type a eu lieu ce week-end dans le Val-d'Oise.
Oui, cette fois, ça se passe dans une laverie. Emmanuel Duteil, un homme roué de coups et blessé pour avoir simplement demandé à une autre personne de bien vouloir porter son masque.
Oui, on est dimanche après-midi dans cette petite laverie de Soisy-sous-Montmorency. Un papa avec ses deux enfants de 5 et 7 ans plie ses vêtements qui viennent d'être lavés. À ce moment-là, un autre client pénètre sans masque dans l'établissement. Le père de famille lui fait remarquer que le port du masque est obligatoire. Il lui fait savoir qu'une affiche le précise également dans l'établissement. Une remarque qui ne passe pas. « Je fais bien ce que je veux », lui répond l'homme. Les mots montent. L'homme non masqué sort de la laverie il revient très vite accompagné d'autres hommes. Le père de famille est alors frappé, notamment à coups de batte de baseball. Il est transporté dans un hôpital et souffre d'un traumatisme crânien avec une plaie, de contusions et de douleurs lombaires. S'il touchait Manuk, c'était fini. À 2 centimètres près, c'était la morgue. La morgue pour un masque, s'indigne-t-il.
Terrifiant, Emmanuel Duteil.
Europe 1, 7h06.
En Espagne, c'est l'autre fait marquant du jour. Juan Carlos qui quitte le pays. L'ancien roi déchu annonce son exil, visé par une enquête pour corruption.
Il a régné sur le pays de la chute de Franco jusqu'à 2014 à une abdication, déjà sur fond de largesse financière. Cette fois, la justice espagnole enquête sur les millions d'euros de commissions qu'il aurait touchées de l'Arabie Saoudite, quand le régime de Riyad a confié son futur TGV à un consortium ibérique. Nicolas Feldman, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Madrid. Comment cette annonce d'un exil est perçue sur place ce matin ?
Alors vous l'imaginez bien, hein, c'est le débat qui agite le pays depuis hier 18h, heure à laquelle Juan Carlos a en fait envoyé ce communiqué à son fils, le roi Felipe VI, pour lui annoncer son exil. Et ici ce matin, à Madrid, la nouvelle est à la une de tous les journaux. Prenez par exemple El País, Juan Carlos Ier quitte l'Espagne, titre le quotidien, avec en une photo du souverain déchu de profil à contre-jour. Pour le journal ABC, ce départ vise à protéger le règne de son fils. D'après plusieurs médias, Juan Carlos aurait déjà quitté sa résidence, peut-être même le pays. Difficile à avaler pour les Madrilènes que j'ai croisés, comme Javier, il a 27 ans. À son âge, ça veut dire 21 années passées sous le règne de Juan Carlos.
Quand il dit qu'il s'exile, c'est tout simplement qu'on va lui payer une deuxième résidence quelque part ailleurs dans le monde où il sera en train de vivre ces dernières années. C'est encore une honte. On aime ou on n'aime pas les rois, on aime la figure de la monarchie, etc. Ça, c'est à part. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui a fraudé, qui a eu des affaires, qui a eu des copines. Il devrait payer, il devrait être devant la justice.
Alors quel pays maintenant pour accueillir Juan Carlos ? Encore impossible à dire, mais son avocat précise que où qu'il soit, l'ancien roi reste à la disposition de la justice espagnole.
Merci à vous Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Madrid. En France, on n'a peut-être jamais aussi peu payé en liquide que depuis la fin du confinement avec les mesures sanitaires. Le nombre de distributeurs de billets continue d'ailleurs de diminuer.
Ça n'est pas totalement nouveau, mais ça risque donc de s'accentuer. Les banques en ont encore supprimé 2000 l'an passé. Il en reste au total 50 000 sur tout le territoire, selon les derniers chiffres de la Banque de France, Olivier Samin.
La crise sanitaire a accéléré le processus avec l'encouragement des paiements sans contact, mais avant même l'irruption du coronavirus, la tendance était déjà solidement installée. Ça fait plusieurs années qu'on sort moins de billets de notre portefeuille pour régler nos achats. Une raison suffisante, disent les banques, pour réduire le nombre des distributeurs automatiques sur le territoire, sachant que le coût de fonctionnement annuel d'un automate tourne autour de 14 000 euros. En 2019, 2000 distributeurs ont donc été supprimés, soit une baisse de 4,1%, baisse nettement supérieure, il faut quand même le dire, à celle des années précédentes. Mais la Banque de France laisse entendre que ça ne nuit pas à l'accessibilité. Près de 99% de la population métropolitaine âgée de 15 ans et plus réside soit dans une commune équipée d'au moins un automate, soit dans une commune située à moins de 15 minutes en voiture de la commune la plus proche, équipée d'un automate. Ce qui apparaît en fait, c'est que la suppression des distributeurs automatiques s'est surtout produite dans les villes, beaucoup moins dans les zones rurales.
Où cela reste néanmoins un vrai problème, et vous allez en reparler, Sébastien Krebs, avec votre invité à 7h40.
Le directeur général adjoint de la banque BNP Paribas, Thierry Laborde, sera en direct avec nous.
Deux militaires rattachés à la DGSE, mis en examen et écroués pour tentative de meurtre, annonce hier soir du parquet de Paris. Ils ont été arrêtés il y a 10 jours en possession de plusieurs armes alors qu'ils préparaient un règlement de compte. Un troisième homme, un civil, a lui aussi été arrêté et incarcéré.
Et justement, dans nos prisons, y a-t-il une flambée de violence envers les surveillants ?
On vous parlait ici même la semaine dernière du cauchemar des surveillants de Borgo en Corse. Les voitures d'au moins 8 d'entre eux incendiées, souvent devant leur domicile. Il y a 10 jours à Lille-Séquedin, c'est le grillage du parking qui a été défoncé. 6 véhicules incendiés, 3 surveillants blessés, surtout ce week-end à Arles par un détenu qui s'était confectionné un couteau.
Bonjour Emmanuel Chambaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Secrétaire général adjoint du syndicat UFAP UNSA Justice, syndicat donc des surveillants de prison. Vous dénoncez l'absence de réaction du ministère de la Justice face à ces incidents qui sont de plus en plus graves.
Oui, tout à fait. Ce que j'indiquais à vos confrères la semaine dernière, c'est que depuis les événements, les véhicules, tant sur que également à Lille, nous n'avons pas vu le ministre réagir à ces attentats contre le personnel.
Qu'est-ce que vous lui demandez à Éric Dupond-Moretti? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Plus de moyens pour votre sécurité, ça voudrait dire quoi?
Nous demandons en fait à M. Dupond-Moretti l'ouverture de discussions rapides pour la sécurisation des domaines pénitentiaires.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Plus de renforts, d'autres forces de police pour protéger les enceintes, par exemple?
Alors oui, il faut savoir que ça s'est déjà mis en place sur certains établissements, notamment sur Fresnes, où les personnels ont été victimes de ce type d'agissement de la part de détenus, pas de détenus ou de voyous, on va dire plus généralement. Et donc, effectivement, il faut les renforts de police, mais également la sécurisation des enceintes avec des caméras ou des grillages, puisque l'ensemble des domaines ne sont pas sécurisés.
La période estivale est toujours un peu plus propice aux incidents, mais cette année, vous avez l'impression qu'on s'attaque davantage au bien des personnes, au bien des surveillants?
Écoutez, ce qui est détestable, c'est qu'aujourd'hui, c'est les biens des personnels qui sont visés. J'allais dire de par nos fonctions, malheureusement aujourd'hui, et on l'a encore vu ce week-end avec la tentative d'assassinat d'un collègue sur Arles, là des agressions sont monnaie courante, mais c'est vrai que sur les biens des personnels, c'était des choses plus rares, c'était des sections, mais aujourd'hui on a l'impression que ça devient monnaie courante.
Merci beaucoup Emmanuel Chambaud d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat UFAP UNSA Justice. Merci, bonne journée à vous.
À l'étranger, les pompiers ont toujours toutes les peines du monde à contenir le vaste incendie qui a déjà ravagé plus de 8300 hectares près de San Bernardino en Californie. Près de 8000 habitants ont été évacués et depuis vendredi dernier, plus d'un millier de soldats du feu luttent en permanence contre celui qu'on a baptisé l'Apple Fire. Et Benoît Clerc est sur place pour Europe 1.
L'Apple Fire est le premier gros incendie de la saison en Californie, avec plus de 12 000 hectares brûlés en 4 jours. On voit sa fumée depuis Las Vegas et Phoenix, villes respectivement distantes de 350 et 500 km du foyer principal. La famille de Brian habite la région depuis 5 générations et n'a jamais vu ça.
L'endroit qui brûle en ce moment n'a pas brûlé depuis 200 ans. C'est le pire que j'ai pu voir ici.
260 camions de pompiers, 9 hélicoptères, des bulldozers, plus 11 avions gros porteurs d'eau ont commencé leur noria à partir des lacs proches, mais leurs efforts ne sont pas pour le moment couronnés de succès en raison de la sécheresse et du terrain inaccessible. Le feu n'est contenu qu'à moins de 10% ce matin. Fernando Herrera est le chef des pompiers du comté de San Bernardino.
La combinaison du temps très chaud, de la topographie et l'accès au terrain est vraiment difficile ici.
8000 personnes ont déjà été évacuées, mais la Croix-Rouge n'a pas pu les accueillir dans des gymnases en raison de la Covid-19. Près de 3000 pompiers sont sur place. Pour eux, il a fallu installer un campement d'urgence. Ils travaillent 12 heures d'affilée, puis se reposent 12 heures dans des tentes individuelles. Mais il leur faut bien sûr des douches, des toilettes, de quoi se nourrir et même une salle de prière. Une véritable organisation militaire avec un intendant et des comptables encadrés de shérifs armés, car ils ont des centaines de milliers de dollars en cash sur eux pour payer l'essence des camions, les restaurateurs, les livreurs de soda, etc. Les autorités espèrent une accalmie du vent pour jeudi. En attendant, les rotations continuent. Au PC-feu de l'Apple Fire à Banning en Californie, Benoît Clerc, Europe 1.
Et vigilance aussi sur la côte est des États-Unis où l'ouragan Isaias arrive sur les côtes de Caroline du Nord. Rafales attendues jusqu'à 140 km/h.
Il est 7h14, la suite du journal sur Europe 1. Théo Manval, Sébastien Krebs.
En France, Laurent Cabrol nous le disait, les températures se sont rafraîchies ces derniers jours. Mais la sécheresse, elle continue d'érégner sur une bonne partie du pays.
Le mois de juillet 2020 a été le plus sec mesuré depuis 1959. Selon Météo France, plus de 60 départements ont dû prendre des restrictions d'eau. Et la rivière du Doubs est même carrément à sec par endroits en ce moment entre Pontarlier et Morteau, ce qui inquiète forcément les habitants. Écoutez, Denis Vonin, il dirige une association de pêcheurs à Maison du Bois.
Il n'y a plus rien là, c'est une route, hein. Plus une goutte d'eau. Ça sent pas bien bon, quoi, quand on va se promener et puis qu'on veut voir une belle rivière, puis qu'on voit plus que du sable et puis des poissons crevés au fond. Vous avez des flaques avec tous les poissons au ventre en l'air et puis tout est mort. Dans le temps, les gosses allaient se baigner dans les bassines, comme ils appelaient ça, tout ça. Non, mais c'était une rivière qui vivait. Hein. Celui qui a vécu il y a 30-40 ans ici, l'eau, il y en avait partout, il pleuvait tout le temps. Aujourd'hui, vous partez, vous ne prenez plus un habit de pluie. Hein. On est en train de vivre le réchauffement, on le prend en pleine tête. Les bois, les forêts, les champs, tout est sec, donc il faudrait qu'il pleuve 15 jours, 3 semaines pour en voir le résultat. Et puis, il annonce des jours de grande chaleur. Hein. à partir de mardi, donc ça va finir la catastrophe.
Voilà, il faudrait 3 semaines de pluie, nous dit Denis Vonin, président d'une association de pêche, dont le 12 juin pour Europe 1 par Caroline Baudry.
Allez, on va lever le suspense, Théo. On vous emmène vers la plus belle plage de France pour terminer ce journal.
Un titre forcément subjectif, hein, on va le dire quand même, mais promis, elle vaut le détour dans le Var, lance de l'Estagnol, et ses couleurs magiques se sont offertes à Marion Gauthier.
Ça m'arrive d'aller ailleurs, mais c'est très rare. On est amoureux d'ici.
Parce qu'il tient le restaurant à 2 pas de la plage, Patrick n'est pas l'objectivité même, mais ce sont des amoureux comme lui qui font la réputation de l'Estagnol. Un arc de sable blanc au pied de collines dorées plantées de pins, bien loin de l'Isère de Christian.
On nous a déjà parlé de cette plage-là, donc on a flashé, on va dire. On est dépaysé, on se croit sur une île. Là. On reviendra forcément. Oui.
Pas d'habitation aux alentours, vue sur l'île de Porquerolles. Mathieu admire, appareil photo à la main.
Avec les couleurs de l'eau qui change régulièrement selon le soleil et des souvenirs qui vont être gravés pendant quelques années avec les enfants. Quoi.
D'autant que l'anse peu profonde sur des dizaines de mètres est rassurante pour Julie qui ne quitte pas des yeux ses 3 enfants. Elle regrette seulement le monde.
On est toujours victime de son succès. Après c'est à moi aussi de ne pas venir sur cette plage et il y aura moins de monde. Mais je n'aurais pas vu la plus belle plage de France. On est bien, on est dans l'eau, on pense à rien. On n'a pas de portable. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me change, c'est bien.
Les vacances commencent pour cette mère de famille parisienne qui a du temps pour comparer les plages de la région. Bormes-les-Mimosas, Marion Gauthier, Europe 1.
Bon, qu'est-ce que vous en dites, Sébastien?
On a regardé les photos
de France ou pas?
On laisse un peu le bruit de la mer, un petit peu, là. On était bien. Ça a l'air magnifique. C'était le journal de Théo Manval. Le prochain journal à 7h30 avec Sophie Tussaud.